En compagnie de Derek au coin, Derek, on discute bien sûr autour de ton livre La tête haute. Le lancement officiellement, c'est lundi. Je sais que les conditions qu'on vit actuellement ont bouleversé tes plans de lancement, mais le lancement officiel, il est disponible à partir de quand, en ligne ou en librairie ou même en audio? Je sais que tu as enregistré la version audio au cours des derniers jours.
Oui, monsieur, ben c'est le 25. Le 25, c'est en librairie. Mais je pense qu'on peut aller sur les différents sites pour les précommandes, la précommander. C'est déjà j'ai déjà eu beaucoup de messages de gens qui l'ont déjà fait, mais c'est en librairie le 25 mars. Donc le 25 mars, c'est là. On est rendu là.
En plein là. Et on va revenir. Je viens de négocier avec Derek une prolongation parce que là, je voyais le temps filer. Puis il y a tellement de sujets que j'ai pas abordés, que j'ai pas eu l'occasion d'aborder avec toi. Donc, on va continuer la conversation là. On va aller aux nouvelles tout à l'heure avec Guy. On va revenir pour une portion supplémentaire avec Derek. Alors, pour la portion qui est un peu plus courte d'ici là, je voulais aborder d'autres thèmes avec toi. Et je vais retourner un peu au baseball. On est allé dans ta famille un peu tout à l'heure, mais on est resté dans le baseball avec ton histoire de Popfly. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, quelqu'un qui a baptisé ça Popfly. Fly 2020 pour l'activité qu'on projette pour l'été prochain. Salutations aux gens qui nous écrivent sur la messagerie texte. Après l'épisode, la grande déception que tu as vécue quand les expos t'ont envoyé dans les mineurs, puis toi, tu étais prêt pour les majeurs, puis on a senti que bon. Mais après ça, tu es allé dans les mineurs, puis tu as vécu des problèmes d'anxiété. Tu as atteint en quelque sorte le fond du baril au niveau de ta confiance, qui était ta force. Ça n'a pas été fait. Comment tu as vécu ça ces années-là? Puis je sais que les Mets même ont peut-être essayé de t'aider, mais comment tu as vécu cette épreuve-là? Parce que là, ton rêve, tu y avais touché, puis là, ça déboulait. Puis c'est drôle, on pense souvent à des rappels des jeunes, on pense souvent des joueurs rappelés trop vite qui sont envoyés, comment ils vont dealer avec ça, comment ils vont composer. Mais raconte-nous, toi, comment tu l'as vécu.
Bien, ce qui arrive, c'est que tu passes ta vie à mettre les ligues majeures sur un piédestal. Tu passes ta vie à voir ça comme le nirvana, comme quelque chose de beaucoup plus grand que c'est. Tu sais, c'est des êtres humains avec deux pieds, deux mains, deux bras, deux jambes. C'est du monde comme nous autres, là. C'est un environnement qui est pas différent que l'environnement que tu es dans les ligues mineures, mais tu sais, quand tu as l'âge de 5 ans, 6 ans, tu vois ça tellement plus gros que c'est réellement. Et quand tu es là dans business, et j'ai pas été là longtemps dans business, Mario, et tu te le fais, comme je t'ai dit, j'étais pas prêt pour me faire rétrograder, me faire retrancher comme ça, d'une façon, parce que j'avais rien fait de mal, j'avais bien lancé, mais j'avais aussi eu un bon camp d'entraînement. J'avais mené les majeurs, moi, en 96, au niveau des parties sauvegardées. J'avais bien lancé au camp d'entraînement. Je n'avais fait assez. Je m'étais rendu jusqu'à la dernière journée. J'avais battu la seule personne qui me restait à battre pour faire le club. Mais j'avais simplement pas les outils pour accepter ou comprendre le renvoi à Ottawa. Et là, on me dit, on m'explique, on tente de m'expliquer. Ben, nous autres, Derek, on préfère que tu sois le releveur numéro 1 à Ottawa qu'être le 12e lanceur ou le 11e lanceur à Montréal. C'était ça la réponse. Mais j'ai dit, oui, mais il y a personne qui m'a demandé mon opinion là-dedans, moi. Pourquoi vous me demandez pas, moi, je serais plus confortable dans quel rôle? Il y a personne qui me demande ça. Et j'ai jamais été capable par la suite de m'accrocher à quelque chose d'autre parce que mon rêve était de lancer pour les expos, était de jouer au stade. Et un coup que je l'ai réalisé, ça, c'était comme, OK, je l'ai fait. Fait que c'était juste. Puis là, après ça, c'était tout. C'était juste ça. Ah. Toute ma vie, je me suis attendu à quelque chose de spectaculaire. Puis là, je me fais retourner à Ottawa sur des paroles qui sortaient d'un bord puis de l'autre de la bouche du DG parce qu'il m'avait dit quand il me rappelait, lorsque j'aurais mon rappel, ce serait pour la saison. Et là, deux jours après, je me fais retourner à Ottawa encore pour aucune raison, pas parce que j'ai mal fait. Au contraire, on disait non, il s'est bien battu, il a gardé la balle basse, il a bien fait, il a bien lancé, il nous a gardé dans le match, Derek au coin, il avait sa place, il a été rappelé parce qu'il avait sa place, puis c'était pas parce que c'était un Québécois, il disait toutes les bonnes choses, mais Après ça, je suis retourné à Ottawa, j'avais plus la même flamme. J'avais réussi. Et soudainement, par contre, là, maintenant, j'avais l'idée que je devais en faire plus. La balle devenait plus pesante. Lorsque j'effectuais un mauvais lancer, lorsque je donnais un coup sûr, tout était plus lourd.
Poursuivons cette entrevue amorcée il y a de cela quelques minutes avec notre ami Derek Aucoin qui nous propose son livre qui sera disponible officiellement à compter du 25. La tête haute, Derek Aucoin, préface de Steve Rogers. La tête haute, c'est une belle photo également. C'est une photo qui est évocatrice. Hein? Tu ne caches pas ta réalité. La tête haute et on voit une profonde cicatrice. C'est quelque chose, hein, Derek? Là, je regarde la cicatrice sur le bord, le côté droit de ton crâne, de ta tête, là. Avec c'est quasiment des tacs, hein? C'est carrément ça.
Des agrafes. C'est des agrafes, hein? Oui.
C'est et les gens pourront voir ça. On va parler de la maladie tout à l'heure, mais dans un premier temps, tu sais, tu racontais tout à l'heure, bon, à un moment donné, tu as perdu ta confiance. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a, je sais pas si tu as été diagnostiqué ou tu as consulté, mais ça t'a-tu fait vivre carrément une dépression?
Oui, et il y a des, tu sais, je couvre ça aussi beaucoup dans le livre parce que je souhaitais que le livre ait des messages, hein, qu'on puisse aider des gens justement à consulter et à aider, peu importe le problème. Je peux dire, il est question du suicide de mon bon ami Stéphane là-dedans aussi, parce que tu sais, comme à tous les soirs, je termine mes émissions avec cet appel-là, avec ce message-là aux gens de pas avoir peur de parler. De prendre le téléphone puis d'appeler la ligne le 1-866 appel. Et il y a aussi ça de pas avoir peur de consulter. C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse lorsqu'on se sent la dépression. La dépression. Non, mais je suis passé par là. Et non, il y en a question dans le livre. J'en parle.
J'aurais aimé ça en parler à ce moment-là, d'en parler.
J'aurais aimé ça. T'as raison, Mario. J'aurais aimé ça être mieux équipé. Puis juste avant la pause et les nouvelles, tout ça, je t'ai dit qu'il me manquait ces outils-là. Je les avais pas. Je savais pas. Je m'accrochais. Je m'agrippais. J'essayais de trouver quelque chose. Et mon but ultime était de jouer pour les Expos. Était de lancer au stade olympique devant parents et amis dans l'uniforme des Expos. C'était ça le but que je caressais, le rêve que je caressais, le rêve de petit cul de la place Côte-Noire à Boisbriand. Mais lorsque j'ai atteint ce rêve-là, j'ai pas été capable de me revirer puis de m'en fixer un autre. Tu sais, ça aurait pu être aussi simple, mais pas, je dis pas ça simple, faut que je fasse attention à mon choix de mots, là, mais par exemple d'égaler le nombre de matchs lancés de Claude Raymond, par exemple. De me fixer un objectif comme ça. Le nombre de matchs sauvegardés de Claude Raymond. Tu sais, trouver un autre objectif, là, palpable, qui existait, que j'aurais pu tout mettre mes énergies, ma concentration, mon désir, tout me retourner vers un autre rêve. Parce que lorsque j'ai commencé à consulter, j'ai compris ce que je vivais n'était pas étranger, n'était pas quelque chose d'inventé, c'était quelque chose qui existait, c'était quelque chose que le médecin avait dit, c'est un post-achievement depression, puis il avait comparé ça justement, là c'est drôle qu'on parle d'un livre là, mais à quelqu'un qui écrivait un scénario de film, ou un livre, ou un roman, qui passe beaucoup de temps à faire quelque chose, passe beaucoup de temps, puis un coup que c'est envoyé, c'est l'exemple que le médecin m'avait donné là. Et un coup que c'est envoyé à l'imprimerie, là, soudainement, il tombe en dépression profonde parce que il a mis tellement de temps et d'énergie à son projet que là, soudainement, il se retrouve, il n'y a plus de projet, là. C'est fini. Le projet est fini, là. Et là, il y a un vide. Et moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'avais le vide, puis j'avais la déception que ça n'égalait pas les 20... Mais les deux décennies que je m'étais imaginé que c'était le Nirvana, là, ce jouer dans les ligues majeures. Tu me suis-tu, Mario?
Oui, je te suis complètement. Et donc, le simple fait de retourner, de travailler pour être rappelé dans le baseball majeur, de retourner dans la grosse ligue, c'était même plus une motivation pour toi à ce moment-là.
Non seulement c'était pas une motivation, mais la pression d'y retourner, la balle était plus pesante. Chaque mauvais lancé, c'était, je manquais la cible, c'était, oh non, Ah oh non, là, c'est sûr, je me ferai jamais rappeler, là.
Ah ouais.
Tu sais, je me donnais un coup sûr, je donnais un point, ma moyenne montait. Ah là, je suis dans le trouble, là, c'est sûr. Là, je trouvais que je m'auto-sabotais, que je donnais des excuses maintenant à Jim Beattie de pas me rappeler. Je donnais des excuses. Là, finalement, là, il n'avait des excuses de pas me rappeler, là. Puis je vivais tout ça dans ma tête, là. Ça se passait entre mes deux oreilles.
Je laisse cet épisode-là qui est vraiment intéressant, puis les gens iront en lire davantage dans le livre parce que je vois l'horloge avant qui n'arrête jamais, elle, puis je voulais que tu nous parles.
Oui, ben on veut que le monde aille recharger le livre.
En plus de ça, on va leur en laisser un peu, mais pas tout quand même. Rapidement là-dessus, l'époque des stéroïdes, t'avais décidé que toi, tu voulais rien savoir de ça, mais t'étais conscient qu'il y en a qui prenaient des petites vitamines illégales. C'était à l'œil nu, là, c'était comme flagrant. C'était pas caché.
Caché, hein? Non, mais où je l'ai vu le plus, c'est lorsque j'étais dans la Ligue de l'Arizona, qui était la Ligue des meilleurs prospects du baseball, parce que c'était lorsque tu te promenais d'un casier à un autre et tu regardais la tablette du haut des gars, mais les gars, c'était des spécimens, là. C'était des Adonis. Je regardais la façon que les gars étaient bâtis. J'ai dit, dans quel gym ici? Ils vont à quel gym, eux autres? Ils vont pas au même gym que moi, ces gars-là. Ils mangent pas dans les mêmes restos que moi, ces gars-là. C'était incroyable, la forme physique de ces joueurs-là, la force de ces joueurs-là. Et là, je me suis mis à poser des questions, parce qu'ils prenaient certaines pilules, puis c'était pas juste de la créatine, là. Et ils prenaient certaines substances, puis j'ai posé des questions, puis j'ai pris des notes. C'est la Ligue d'automne. Je me suis dit que l'hiver, je reviendrai chez moi et puis je consulterai mon médecin puis je poserai des questions. Je poserai des questions à mon médecin de famille. Et là, je prenais des notes. C'est quoi ça? C'est quoi ce produit-là? Puis là, j'écrivais. Il y avait beaucoup de mots qui finissaient par testostérone puis avec d'autres voyelles puis d'autres consonnes. Mais j'écrivais tout ça. J'écrivais tout ce qui se passait. Puis lorsque j'ai consulté mon médecin en arrivant à Boisbriand, il me disait, c'est quoi ces affaires-là, Derek? C'est quoi tu me demandes au juste? Ben, je connais des athlètes qui prennent ces substances-là, puis je veux savoir ça fait quoi? À long terme, à court terme, c'est quoi les dangers? Il dit, mais pourquoi ils prennent ça? J'ai dit, regarde, je veux pas répondre à ça, là, juste savoir, là, y a-tu des risques là-dedans? C'est quoi ça fait? Mais il dit, tu veux-tu avoir des enfants, Derek? Moi, j'ai dit oui. Mais ça, il dit, tu touches pas à ça. Puis là, il en cochait un, puis fait il cochait un autre. Puis...
T'as pas question de te doper.
Non. Juste le fait de, si je veux avoir des enfants, ça m'éliminait la moitié de la liste, là. Mais il avait été honnête. Il dit, ça a aucun sens que quelqu'un prenne ça, puis oublie ça, puis oublie ça, puis. Alors, j'avais posé des questions. Et j'avais eu mes réponses. Mais le plus choquant de tout, je pense que je te l'ai déjà raconté l'histoire. C'était un joueur de l'organisation des Reds de Cincinnati qui avait un cousin qui était gardien de sécurité dans une piste de course de chiens à Jacksonville, en Floride, qui envoyait, lui, de la pharmacie du vétérinaire.
Aïe, aïe.
Les produits dopants des chiens de la traque de course de Jacksonville, il envoyait ça clandestinement. Puis lui, il se piquait. Il savait même pas qu'est-ce qui se mettait dans le corps, mais c'était des stéroïdes que les gars piquaient les chiens avec, Mario.
Alors, c'est pas des farces d'entendre ça. Derek, une dernière pause et on revient pour la dernière portion de cet entretien. On va parler de ton combat contre la maladie, bien sûr, de ta réalité familiale, de tout ce qu'on aura le temps d'aborder, bien sûr, d'ici la fin. Et on va parler aussi d'un ami qui, malheureusement, t'a quitté dans de tristes circonstances. Et c'est pour ça que tu fais un appel aux gens qui ont des pensées noires à la fin de chaque émission, quand tu as le privilège d'animer, en donnant le numéro que tu faisais allusion tout à l'heure, là, pour ne pas, bien sûr, avoir des idées noires, ne pas se suicider. Mais il y a une chanson qui va déclencher un paquet de souvenirs et on les commentera au retour de la pause parce que c'est la dernière chanson ou le dernier disque que ton chum qui s'est enlevé la vie, l'avait laissé, comme on dit, sur le pick-up, sur le tourne-disque dans le temps, et c'était ceci, on revient tout de suite.
Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Demain, je
encore quelques minutes en compagnie de notre invité très, très spécial ce soir, Derek Aucoin. Le livre « Derek, la tête haute » s'est lancé le 25 mars prochain. Derek, je voulais revenir en cette fin d'entrevue sur... on a entendu une chanson d'Harmonium tout à l'heure. Et c'est pour ça que tu es tellement sensible à la détresse. Tu as vécu une dépression toi-même à l'époque. Tu nous l'as raconté tout à l'heure, à l'époque où tu lançais au baseball, quand tu as vécu des difficultés, tu as perdu ta confiance. Et j'imagine que ça, tu l'avais peut-être déjà, cette sensibilité-là. Mais en tout cas, ça l'a certainement aiguisé. Et c'est pour ça. Puis je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a rendu hommage en disant, Derek, tu m'as peut-être sauvé la vie parce qu'à un moment donné, tu en as parlé. Puis il a composé le numéro. Puis cette personne-là est encore en vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui te saluent sur les différentes messageries qui me sont accessibles. Mais ça a c'était quoi? C'est un phénomène qui est difficile à comprendre. J'ai aussi des amis qui se sont malheureusement enlevés de la vie au fil des ans, plus proches ou des fois de plus loin. Mais toi, ça t'a bouleversé profondément parce que un bon soir, tu t'en vas dans un party avec quelqu'un, le lendemain, il s'enlève la vie. Les parents t'avaient contacté, ils essayaient de comprendre. Puis t'as jamais vraiment... C'est difficile à comprendre, hein?
C'est très difficile à comprendre parce que c'était le bout en train de notre gang. C'était le clown. Et tu sais, de l'expression là, derrière chaque masse de clown, il y a un visage triste.
Un clown
là.
Triste, ouais.
Ouais, mais c'est ça. J'ai jamais compris parce que j'aurais tellement aimé qu'il me parle parce que cette journée-là, il m'avait dit, toi là, tu ferais n'importe quoi pour un chum. C'est une des dernières choses qu'il m'a dit, Mario. Il dit, toi là, Derek.
Il t'a rien
là,
demandé, comme toi, quand t'as vécu ta détresse, t'as rien demandé à personne.
Non. Il dit, toi, là, Derek, là, tu ferais n'importe quoi pour un chum. Puis, tu sais, je trouvais ça gentil qu'il me dise ça, mais, OK, mais, y a-tu manqué quelque chose? Y a-tu une autre phrase qui a pas été capable de me dire? Il dit, tu ferais n'importe quoi pour un chum, mais il a jamais dit rien après ça. Et le lendemain matin, j'ai reçu un appel comme quoi qu'il était pendu dans le sous-sol chez eux. Puis on a 17 ans, là. C'est entre le secondaire puis le cégep, puis lorsque j'ai eu le privilège d'avoir l'antenne, d'avoir le micro au 98.5, on revenait au Québec, Isabelle, moi, Dawson, et je commençais à donner des camps au Québec, des camps de baseball, puis moi, tous mes formulaires de d'inscription, j'aime ça connaître les enfants, j'aime ça savoir quelque chose de spécial sur les enfants, Mario, et je demande toujours une question dans le bas. Dites-moi quelque chose sur votre jeune. Dites-moi quelque chose de spécial sur votre jeune. Parce que ça me donne un petit contact, que ce soit un surnom ou quelque chose. Mm-hmm. Puis là, lorsque j'ai commencé à recevoir les formulaires du Québec, là, des gens du Québec, là, 3 sur 10, Mario, 2 sur 10, 3 sur 10, là, puis j'exagère pas du tout, là. Maman s'est suicidée il y a 3 mois. Le père s'est suicidé l'an dernier. Le père s'est suicidé il y a 2 mois. Le père s'est enlevé la vie. Puis là, j'étais là, quoi? Là, on dirait que 2 ou 3 de mes formulaires sur 10 que je recevais, là, c'était ça qu'il me disait. C'était ça que je recevais comme information sur l'enfant. Je m'attendais pas à ça. Là. Moi, je m'attendais... aime beaucoup les animaux, on a 4 chats à la maison, tu sais, c'était pas ça qu'on me disait, là. On me donnait de l'information qui était pas mal différente, là. Puis là, j'arrivais, moi, dans ces camps-là, puis je voyais des jeunes qui avaient les étoiles dans les yeux, puis les yeux brillants, mais qui avaient vécu quelque chose de traumatique, là, c'était waouh, j'en revenais pas, là. Genre, là, mon rôle d'enseignant puis de coach de baseball prenait un autre... c'était un autre niveau, là. Je venais, c'était pas juste un coach de baseball, là.
Ben, quand tu sais ça, c'est sûr et certain.
Exactement.
T'as envie de les prendre dans tes bras puis de les accompagner puis ben surtout oui. Pas non, tu veux les élever, leur permettre de s'élever.
Et de vivre quelque chose de spécial sur le terrain pendant le week-end ou pendant la semaine qu'ils sont là avec moi. Mais j'ai compris que, quand je comprends pas quelque chose, moi j'aime faire la recherche, moi j'aime lire, j'aime comprendre. J'ai vu qu'au Canada, les Québécois, malheureusement, on est vite pour prendre cette décision-là, puis aller à cette option-là, puis l'homme québécois, il est vite sa gâchette, malheureusement. Et ouais. Ben, on a des ressources exceptionnelles. Le 1-866 appel, c'est un groupe incroyable. Et si vous êtes, si vous pensez qu'il y a du monde dans votre entourage qui sont en détresse, là, c'est une ressource pour les gens, pas juste pour les gens qui sont en détresse, mais pour les gens qui croient qu'il y a du monde dans leur environnement en détresse, parce que eux, là, ils vous disent quoi regarder, quoi poser comme question. C'est quoi les signes qui pourraient être des signes, des précurseurs qui pourraient... Parce que je connais du monde qui ont appelé, moi, qui avait peur de, du monde dans leur entourage qui pourrait peut-être poser le geste, là, puis qu'ils ont accompagné là-dedans, puis qui ont sauvé des vies, Mario. Tu sais, c'était pas du monde en détresse, mais qui pensait que quelqu'un dans leur entourage était pour poser le geste, là. Et deux jours après, trois jours après, là, le monde faisait des suivis, il rappelait. Le monde de Suicide Action les rappelait pour faire des suivis. Puis, comment ça a été? Comment, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'était un groupe incroyable, le groupe à 1-866 appel, là. Il n'y a pas d'excuse de pas appeler, puis de pas faire de suivi. Puis
alors,
de
c'est
pas,
un
de...
puissant message, Derek.
Ah, c'était incroyable, ça sauve des vies.
Il nous reste seulement quelques minutes, puis je voulais insister surtout sur tout ce qui avait marqué ta vie au plan sportif. Puis tu sais, c'est sûr que les derniers mois, c'est pas toute ta vie. Ça devient au moment la partie la plus importante de ta vie depuis le diagnostic de cancer. Évidemment que c'est un coup de massue, Derek. On a eu l'occasion que tu nous le racontes à quelques reprises à travers des entretiens qu'on a eu aux amateurs de sport. Au moment où l'on se parle, on est au mois de mars. T'avances là-dedans, t'as subi des traitements. Où est-ce que t'en es? Comment ça va par rapport à tout ça? Comment va le moral, le niveau d'espoir?
Ben écoute, on lâche pas. Moi j'ai confiance. Moi j'ai la foi. On lâche pas.
T'es à la guerre, Derek. Hein? Si ben, tu me permets d'utiliser une image que tu sais des fois tu me racontes là. T'es à la guerre, hein?
Exactement.
C'est ton attitude.
Exactement. C'est la ben l'attitude est tellement importante là-dedans. Je serais pas vivable. Là. Puis tout le monde à qui j'ai parlé qui sont passés par là. Puis je commence avec Ron. Ron a été le premier à qui j'ai appelé lorsque j'ai eu la nouvelle l'été dernier. Tu sais, c'est l'attitude, hein? C'est l'attitude, c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir une attitude positive, d'être parce que je suis bien entouré. J'ai toutes les ressources, là. On est bien avec les médecins. L'équipe de médecins est incroyable. Le CHUM est incroyable. Tout le monde, là, le personnel, c'est incroyable. Je suis bien entouré. L'amour des gens. C'est juste là, c'est mon attitude à moi, c'est de me lever à tous les jours, profiter du moment présent.
Je trouve ça important d'entendre ça dans le contexte actuel où on a un combat collectif global à vivre, mais tu sais, la vie continue, puis ton combat à toi est tellement inspirant, puis le livre également, tu sais, c'est un beau testament, ou peu importe, puis même si t'es encore là pour les 50 prochaines années, je veux dire que d'enregistrer ton histoire, que Dawson, tu sais. C'est important, hein? Je veux dire, jusqu'à quel point d'avoir ton fils à tes côtés est une motivation au quotidien, Derek?
Je suis tellement fier de lui, mais ce que je fais, puis l'image que je veux projeter, parce qu'on sait jamais, là, regarde que Kobe Bryant, là, il s'attendait pas à ça. Là.
C'est bien pour dire, hein? C'est vrai.
Et l'image que je veux lui montrer à Dawson à tous les jours, là, c'est comment on fait face à ça, les difficultés puis l'adversité. Je veux lui montrer, là, il y a 7 ans, il va avoir 8 ans, et le livre, c'est un leg pour lui, mais c'est comment on se tient debout, comment on tient les mains près de la tête, puis comment on baisse pas les bras, comment on met pas un genou par terre, puis comment on fait face à ça, les moments difficiles, parce que la vie est pas... Tu sais, l'autoroute de la vie, là, c'est pas un chemin droit avec juste des coquelicots puis des fleurs de chaque bord. C'est une autoroute des fois qui a des embûches. Des fois, c'est pas facile. Mais je veux montrer d'exemple. Je veux lui servir d'inspiration. Et si je peux le faire pour d'autres gens aussi, mais ce livre-là, je pense que c'était ça un peu le but. C'était pour Dawson. Ça va aider d'autres personnes également. Et il y a mon défi de gratitude là-dedans, dans le livre.
Oui.
Parce que c'est un mot que chez nous, on continue d'utiliser. Et dans le livre, Mario, tu l'as lu.
Oui.
Tu sais, je commence en force dans le livre en disant que je me considère comme la personne la plus chanceuse au monde. Oui. Je suis encore capable de te dire ça aujourd'hui.
Non, tu es tellement généreux d'ailleurs de ton appréciation de tes mots. Puis c'est ça que tu véhicules. Puis tu es d'un positivisme incroyable. C'est puissant. Puis mission accomplie pour le leg, puis le message, Derek, parce que, en tout cas, moi, tu m'inspires personnellement. Tu inspires un paquet de monde. Puis je suis tellement content d'avoir passé ces moments-là avec toi ce soir.
Puis j'espère que tu vas faire le défi, mon défi, la tête haute, parce que j'aimerais bien ça pouvoir te reparler en onde.
Oui.
Quand tu auras fini,
oui,
puis parler de ton expérience, comment tu as vécu, parce que je pense que ça, là, Mario, là,
oui,
un, ça va faire de la radio incroyable, et deux, ça va faire du bien au monde, parce que on va, j'espère qu'on va avoir passé à travers, puis on va être sur la courbe descendante, là. Peut-être qu'on va avoir passé à travers déjà, là, mais je pense que le monde a besoin de plus de ça. Plus de gratitude, plus de reconnaissance. Parce que où il y a de la gratitude, où il y a de la reconnaissance, Mario, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur.
Puis il y a de l'amour. Derek,
il y a de l'amour.
Je t'aime. Bonne fin de soirée. Salut à ton garçon puis à ta femme. Puis c'est un rendez-vous. On se donne rendez-vous la prochaine fois. C'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça, là. C'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça.
Excellent. J'aime ça. Je mets ça sur la liste.
Merci, mon ami. Merci, Derek.
Bonne soirée à toi, bonne soirée tout le monde, puis si vous avez la chance de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un ce soir ou demain, sautez sur cette chance-là, parce que, croyez-moi, tout le monde en a besoin.
Merci, Derek.
Salut, Mario, je t'aime.
Moi aussi. Bye-bye.
Bye.